Hello, moi c'est Flore.
Et moi c'est Nicolas.
Tu écoutes La Petite Porte, le podcast pour que les femmes se fassent enfin confiance. La Petite Porte.
La Petite Porte. La Petite Porte.
La Petite Porte.
La Petite Porte. Le podcast qui réussit aux femmes. Avec La Petite Porte, on est là pour parler, pour déconstruire et pour dépasser l'intériorisation des discriminations, qui fait que les femmes se font moins confiance en moyenne que les hommes, qui fait qu'elles se sentent souvent moins légitimes, qu'elles osent moins prendre la parole, lancer des projets ou en général s'imposer. Imagine qu'on vit dans un monde où quand on demande à des petites filles de 6 ans si elles se sentent plus ou moins malignes que les petits garçons, elles répondent « moins ». Il y a une étude qui a montré que dès l'âge de 6 ans, les filles se perçoivent comme moins intelligentes que les garçons. Et c'est pas quelque chose qui a été mesuré objectivement sur l'intelligence, c'est bien la perception des petites filles. Alors t'imagines bien que 20 ans plus tard, ces petites filles sur le marché de l'emploi, bah elles négocient moins leur salaire parce qu'elles se sentent moins légitimes, elles ont l'impression qu'elles sont pas à leur place, que finalement elles sont moins intelligentes, qu'elles méritent moins d'être là. Et c'est ça l'intériorisation des discriminations. C'est ça la construction de la confiance en soi. Et c'est de ça qu'on va parler.
Ça c'était pour les mauvaises nouvelles, et pour les bonnes nouvelles, il y a la petite porte. Et avec la petite porte, on a envie de t'aider à dépasser cette discrimination que t'as intériorisée, alors quand je dis toi, c'est toi et moi et tout le monde en fait, et réussir à faire ensemble évoluer les mentalités, et faire évoluer les mentalités, on pense que ça commence surtout par toi. C'est parti!
Pour le premier épisode, je t'explique comment on va procéder. On va commencer par décrypter. Décrypter ce qui se passe, comment ça se construit la confiance, qu'est-ce que c'est les biais cognitifs, et trouver des explications pour comprendre. Deuxièmement, on va écouter. On va écouter des femmes qui se font confiance. On est allé chercher des témoignages, des retours d'expérience, des conseils, des anecdotes, et tu vas pouvoir les découvrir. Et troisièmement, on va te donner de quoi t'entraîner, de quoi travailler chez toi, des petits exercices pour que la prochaine fois que t'es un peu bloqué et que t'oses pas, ça devienne naturellement et que tu puisses résoudre la situation sans te prendre la tête.
Avant toute chose, on va faire un petit disclaimer. On n'est pas là pour t'apporter une recette miracle. On a tous des personnalités différentes, certaines sont plus introverties que d'autres. Donc nos conseils, ils s'appliquent, évidemment, mais ils ne s'appliquent pas au pied de la lettre. Donc il faut prendre ce que tu veux dans nos conseils et voir surtout comment toi tu peux les adapter et les remixer à ta sauce pour qu'ils te parlent et qu'ils puissent te venir naturellement en situation.
Ça, c'est pour nos différences. Et il y a aussi un truc qu'on a toutes en commun, c'est que la confiance en soi, elle est construite socialement. Donc on a toutes été socialisées dans un certain contexte, un contexte dans lequel il y a des discriminations, et que comme on te l'a dit tout à l'heure, bah en fait elles ont été absorbées, intériorisées. C'est un constat qui est partagé par Julie Muret, la directrice adjointe de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, avec qui on a parlé et qui nous a expliqué que la parole des femmes était souvent invalidée et considérée comme moins légitime.
En tant que femme, on est vraiment socialisée et construite comme étant voilà, invisibilisée, pas légitime, devant travailler deux fois plus pour prouver ses compétences. On nous coupe souvent la parole, ce qui n'aide pas, y compris à l'école. Les enseignants, ils vont parfois faire des commentaires sur des bulletins de classe ou bien des remarques en classe ou bien s'adresser aux filles et aux garçons de manière différente. Ils vont considérer que les filles, par exemple, elles bavardent plus. Et donc, quand on s'entend pendant toute sa scolarité dire « Ah, stop les bavardages, etc. Oh là là, les pipelettes !» Oui, mais pipelettes, ça veut dire ta parole, elle n'a pas de valeur, en fait. Ça veut dire ce que tu dis, c'est pas important. C'est anecdotique, c'est dérisoire. Voilà, ça vaut pas le coup d'en parler à haute voix. Et ça va structurer aussi la construction de la confiance en soi, le sentiment de légitimité.
Et ce que nous dit très bien Julie, finalement, c'est que ces stéréotypes, ils se construisent de façon inconsciente. Et justement, pour nous aider à décrypter cette construction inconsciente et à la déjouer, on a fait appel à une spécialiste des biais cognitifs, Sarah Laurent.
Je suis doctorante à l'Université de Montpellier en marketing, et plus précisément en psychologie du consommateur. Ce qui m'a intéressée, c'était vraiment de comprendre pourquoi les gens prennent leurs décisions au quotidien de consommation. Et c'est comme ça que je me suis intéressée pour la première fois au biais cognitif, qui est finalement ce qui va être des petits raccourcis dans le cerveau humain qui va nous amener à parfois faire des choix différents les uns des autres et qui va nous influencer finalement dans nos actions quotidiennes.
Pour remettre les choses en perspective, ces notions qu'on aborde ici, elles ont été théorisées principalement par Daniel Kahneman, qui est le prix Nobel d'économie de 2017, c'était hier. Et c'est quelqu'un qui a théorisé l'idée que les humains, en termes psychologiques, sont plus guidés par les émotions et par des automatismes que par des éléments rationnels. Et que peu importe à quel point on réfléchit et à quel point on est intelligent, on est en permanence hyper influencé par notre environnement pour agir et pour prendre des décisions.
La confiance en soi, elle se construit aussi à travers les yeux des autres qui nous entourent dès la plus tendre enfance. Donc finalement, ça a un lien direct avec notre manière d'interagir avec les autres. C'est vrai qu'il y a parfois des travaux, notamment pour les femmes, sur le rôle que joue la place du jeu dans les cours de récréation, où en fait, on se rend compte que parce que les garçons vont avoir d'emblée plus d'espace avec les terrains de foot, vont prendre plus facilement l'habitude, en grandissant, de prendre de l'espace aussi de vie, que ce soit en entreprise ou dans leurs études, alors que les filles, plus petites, dans la cour de récréation, avec un petit espace de jeu, vont effectivement avoir moins de confiance en elles pour parler en public. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment dans l'apprentissage social et qui vont vraiment jouer sur le quotidien et avec les biais cognitifs.
Les choses comme ça qu'on traîne depuis l'enfance, elles ont un impact super fort, et notamment au moment où on se présente, parce que c'est la première chose que tu dis aux gens sur toi, et c'est aussi la chose la plus importante. Le lien entre les deux, on le fait quand on dit des trucs comme « il n'y a pas de deuxième chance pour une première impression ». On a eu envie d'aller au-delà du proverbe, et c'est pour ça qu'on a demandé à Sarah de nous en dire un peu plus.
La primauté, c'est vraiment l'idée que, en fonction de l'ordre dans lequel on va mettre ces informations, ça va être aussi beaucoup plus retenu par le cerveau humain. À long terme, quand on veut que quelqu'un se souvienne de nous pour quelque chose de fort, il faut commencer la discussion avec cet élément « je suis pom-pom girl » et ensuite le déroulé de ma discussion. Vous retiendrez d'abord cette première information sur le long terme par rapport à mon image. C'est pas du tout un mythe de dire qu'on se base sur les 20 premières secondes de rencontre d'une personne. Donc généralement, les 20 premières secondes, on n'a même pas le temps de parler. Donc c'est effectivement toute la gestuelle, toute la manière de se présenter, de se tenir qui va forcément impacter la première approche.
Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Je vais te proposer une petite expérience. Je vais te présenter deux personnes et je vais te demander de t'en faire une représentation mentale. Le premier homme, il est intelligent, travailleur, impulsif, critique, têtu et envieux. Le deuxième homme, il est envieux, têtu, critique, impulsif, travailleur et intelligent. Lequel de ces deux hommes t'a fait la meilleure impression? Pour la plupart des gens, c'est l'homme numéro 1 qui fait la meilleure impression. En fait, le premier adjectif va à chaque fois donner une sorte de filtre à travers lequel tu vas voir les autres adjectifs. Si le premier adjectif est intelligent, donc plutôt positif, ça va colorer positivement ton impression, tandis que si le premier adjectif est envieux, donc plutôt négatif, ça va colorer négativement ton impression sur les autres adjectifs et donc sur la personne. Tout ça pour dire que ce que tu vas dire en premier est non seulement important, mais en plus ça va colorer tout ce que tu vas dire par la suite.
Donc ok, on a établi que se présenter, c'est important et ça influe beaucoup sur comment les autres te perçoivent. Mais c'est quoi le rapport avec la confiance, en fait? Le rapport, c'est que se présenter, c'est aussi un reflet de comment toi, tu te perçois. Est-ce que tu trouves que t'es cool? Est-ce que tu trouves que t'as des choses géniales à apporter au monde? Et si oui, la manière dont tu vas te présenter, elle va être géniale et tu vas marquer les esprits des gens. Et c'est ça le lien, en fait, c'est que la confiance, c'est aussi la manière dont tu te regardes. Donc la manière dont tu te perçois, la manière dont tu te trouves cool ou pas cool, ça a une influence sur comment tu te présentes. Finalement, c'est logique. Premier sujet, je sais jamais quoi dire, mais vraiment, je sais jamais quoi dire quand on me demande ce que je fais dans la vie. Je sais jamais quoi dire quand on me demande de me présenter. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça arrive quand même plutôt souvent qu'on te demande « Ah salut, tu fais quoi dans la vie ?»« Ah, pourquoi t'es là ?» Et en fait, ça peut être difficile, ça peut bloquer.
On a identifié trois causes à ça, au fait que tu galères quand il est question de te présenter. La première cause, le premier problème, c'est l'idée que tu ne connaisses pas bien tes qualités et tes défauts. Je te parle pas seulement en entretien qu'on te pose la question classique, je te dis aussi dans ton fort intérieur que toi, tu te connaisses pas suffisamment bien pour identifier ce en quoi tu excelles et ce en quoi t'es beaucoup moins forte. Et ça englobe plein de choses. Par exemple, des compétences dures, le fait que tu sois très forte en maths, mais aussi des compétences plus soft, plus molles, comme le fait que tu sois très forte pour te faire des potes. donc a fortiori que tu es le contact facile. Et encore d'autres choses, comme des éléments de ton parcours que tu pourrais mettre en avant, parce que ça témoigne de qualités que tu possèdes. Non seulement il y a des choses que tu connais pas sur toi-même, mais en plus, il y a aussi des choses sur lesquelles tu te trompes. Tu penses que c'est des défauts, mais en fait, ça pourrait être des qualités. Un exemple, si tu as suivi l'épisode d'intro, tu sais que j'ai grandi en banlieue parisienne, et c'est pas nécessairement un truc que ma maman m'aurait conseillé de mettre en avant dans un entretien d'embauche. Tu vois, si j'arrive et je dis « bah, je m'appelle Nicolas et j'ai grandi dans un quartier difficile », ça renvoie pas la meilleure image de moi. Et pourtant, c'est un truc que j'aurais pu mettre en avant, parce que ça dénote finalement de l'adaptabilité, de la persévérance. Et donc, je pense que dans n'importe quel parcours, il y a des expériences, même négatives, à mettre en avant, encore faut-il savoir comment s'y prendre.
Alors, premier conseil, et il va peut-être te paraître évident, mais en fait, il l'est pas tant que ça, c'est que tu pourrais peut-être commencer par te regarder toi-même, par te connaître toi-même, et surtout, par bien aimer ce que tu vois. Alors, je suis pas en train de te dire de te faire des déclarations d'amour le matin dans le miroir. En revanche, je pense que te regarder comme une personne cool et compétente, c'est hyper important, parce que ça veut dire que tu décides de ce qui est une force chez toi, tu décides aussi de ce qui est plutôt une faiblesse, et donc tu décides de ce que tu veux mettre en avant fièrement et de ce que tu veux laisser de côté. Et pour prendre toutes ces décisions, il faut commencer par se connaître. Alors, en pratique, je te propose un petit exercice hyper facile à faire là tout de suite chez toi. Je te propose de prendre un petit papier, un crayon, et de te donner 30 secondes pour lister les 5 meilleures qualités de ta meilleure pote, ou de ton meilleur pote. Genre là tout de suite maintenant, vas-y go. Tu peux même le faire à l'oral si tu veux. Et normalement, ça devrait venir assez vite. C'est des personnes que t'aimes, et genre ils ont plein de trucs cool, ils ont des qualités, certaines c'est plutôt des compétences, d'autres c'est des qualités de vie, des manières de voir le monde. Tu trouveras toujours des choses positives à dire. Et une fois que tu l'as fait, je te propose d'essayer de faire la même chose pour toi. De prendre 30 secondes et d'essayer de dire 5 qualités que t'as. Eh ben, en général, c'est un peu plus dur quand c'est à propos de nous. Tu bugs un petit peu. Ce qui est bizarre parce que t'es censé te connaître mieux que tout le monde. Et pourtant, on a un petit peu de mal à s'attribuer des qualités. Du coup, ce serait franchement cool si t'arrivais à te regarder comme tu regardes, avec les yeux de l'amour, ta meilleure pote ou ton meilleur pote. Alors, pour y arriver, déjà, peut-être que tu peux commencer par pratiquer, en fait, et essayer de te dire à toi-même, moi, je suis cool parce que je suis compétente à ça et ça et ça, et je sais faire ça très bien, et je maîtrise parfaitement ce truc. Et puis, si tu n'y arrives pas, peut-être que tu peux tout simplement demander à tes potes, à tes proches, de faire l'exercice avec toi. Vois ce qui revient. Et tu verras, tu seras peut-être surprise par les choses que les gens te renvoient.
En vrai, ça marche parce que les autres, ils ont une expérience de toi. Ils ont besoin de toi dans certains moments, il y a des trucs chez toi qu'ils adorent, il y a des trucs chez toi qui les saoulent, et toi, t'as pas cette expérience de toi-même. Donc c'est pour ça que ça facilite vraiment le processus si tu vas vraiment demander aux autres, avec leur subjectivité, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, et en général, c'est plutôt safe. Si tu demandes à tes meilleurs potes, ils devraient pas te dire des trucs trop horribles, j'espère. Il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place pour mieux te connaître. On t'incite, mais énormément, à aller faire des tests de personnalité. Alors, pas forcément ceux de Cosmo. Hein.
Ah ouais.
Ouais.
Moi, j'aime bien Cosmo. Il paraît que je suis licorne, ascendant bélier.
Et j'ai perdu ce que je racontais. Non, c'est d'autres tests dont on parle, des tests assez professionnels, des tests comme le MBTI, des tests comme le DISC, D-I-S-C, ou bonus, le test Enneagram, et ce sont des tests qui te permettent d'en savoir plus sur toi-même. Alors forcément, ça va pas te dévoiler d'un coup qui tu es précisément par une opération divine, mais c'est plutôt que ça va te placer dans un spectre et que ça va te permettre de mieux comprendre aussi tes interactions avec les autres. Et c'est probable que tu te dises « Ah oui, je comprends pourquoi j'aime tant faire ça. Ah ouais, je comprends pourquoi ça se passe mal avec machin au bureau. » Donc ça, c'est le premier truc qu'on t'incite vraiment à faire. Il y a des tests dispo en ligne. La plupart sont gratuits, donc débrouille-toi, trouve-les et fais-les, si tu veux.
On arrive au bout de la première partie de cet épisode et on a dit pas mal de choses. J'espère que ça a été intéressant pour toi.
Si les conseils qu'on t'a donnés t'ont changé la vie, ne serait-ce qu'un tout petit peu.
Ou même si carrément t'as des conseils de ton côté à donner à d'autres femmes parce que tu les utilises au quotidien.
Eh ben, on t'invite à passer sur lapetiteporte.org pour nous en parler.
On a plein d'invités trop cool qui arrivent avec des conseils et de quoi t'entraîner. Et j'ai vraiment très hâte de discuter de tout ça avec toi.
Ça nous a fait super plaisir que tu passes la petite porte avec nous.
N'hésite pas à ramener toutes tes copines pour la prochaine fois. Et surtout ta pote Manon, on m'a dit qu'elle était hyper cool.
Et Léa aussi.
Ah ouais, Léa aussi, ouais.
De toute manière, tant qu'il y aura des inégalités, il y aura de la place pour se faire un petit peu plus confiance.
Un grand merci à Julie Muret et à Sarah Laurent d'être passées. Et merci aussi à toutes les personnes avec qui on a discuté et qui nous ont fait passer la petite porte.
Ah, on n'a pas remercié le reste de l'équipe de la petite porte.
Ah zut. Et puis on n'a pas non plus remercié Théo Rivière à la technique.
Mais on peut encore ou pas là?
Bah non, regarde, il y a la musique là.
Ah ouais, c'est trop tard. Bon.